Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à la BPI pour cette nouvelle séance du cycle Belgian Theory en partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles. Le cycle Belgian Theory a pour intention de faire dialoguer un philosophe belge, une personnalité belge, avec une personnalité française, un intellectuel ou une intellectuelle française. Ce soir, nous recevons Éric Clémence qui avait déjà consacré une séance à la poésie et une autre à la politique. Ce soir, il va poser la question en dialogue avec Elisabeth Régal de la philosophie aujourd'hui, pour qui, pourquoi, comment. Je vais laisser la parole à Sylvain Bourbeau qui va animer ce dialogue. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.
Merci, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle séance de ce triptyque autour de vous et Clémence. On avait commencé au Centre Wallonie-Bruxelles par parler de poésie et puis ensuite nous avons parlé de politique et enfin nous parlons de philosophie, trois mots qui sont au cœur de votre travail, trois facettes, mais en même temps des facettes qui sont imbriquées, qui sont très, très articulées les unes aux autres. Alors je crois que ce soir on va parler de philosophie, mais ça m'étonnerait qu'on ne parle pas un peu aussi de politique et de poésie, dans une certaine mesure. Et donc vous allez en parler en dialogue avec Elisabeth Régal qui est comme vous philosophe, qui a été chargée de recherche au CNRS et à qui on doit des ouvrages importants, en particulier sur à propos ou à partir de l'œuvre de Wittgenstein, qui est un immense philosophe, et elle est encore à la tâche puisque nous parlions à l'instant du prochain chantier, qui est à nouveau un chantier de traduction de textes de Wittgenstein. Elisabeth Régal en a traduit déjà beaucoup, et son approche de cette œuvre considérable, dont on sait qu'elle a fait beaucoup réfléchir et beaucoup écrire tout au long du XXe siècle en philosophie, et qu'elle continue de le faire, est une approche très, très singulière. Alors, je vous propose, pour démarrer ce dialogue, et avant aussi de vous donner la parole dans la salle, ce dialogue un peu général sur philosopher aujourd'hui, je vous propose l'un puis l'autre de prendre la parole pour nous dire deux ou trois choses à propos de la philosophie, du pourquoi et du comment ce soir, Éric Clémence.
Que nous savons d'elle, oui. Deux ou trois choses que nous savons d'elle. Oui, je vais mettre une petite exergue en tête, une citation que j'ai trouvée en tête d'un article de Hannah Arendt, Compréhension, et d'une citation de Kafka qu'elle donne en tête de son article sur la compréhension, qu'elle met en tête avant le mot philosophie. Elle était un peu réticente à employer le mot philosophie. Enfin, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que cette citation de Kafka est assez intéressante parce qu'elle tient fort les deux bouts. C'est très court. « Il est difficile de dire la vérité, dit Kafka, car il y en a certes qu'une. Mais elle est vivante. » Il y a donc un visage qui change de manière vivante. Vous voyez, comme ça, il tient vraiment, c'est très kafkaïen, il tient les deux bouts, à la fois la vérité et sa mobilité. Voilà, donc il ne s'agira pas évidemment de faire ce soir la philosophie des philosophes ou de la philosophie de la philosophie, mais simplement d'essayer de donner quelques perspectives, de proposer quelques perspectives justement, puisque la vérité est vivante et mobile. Une vulgate à propos de la philosophie, surtout européenne, voudrait la définir et veut la définir comme la production de concepts à partir de ce qui est dit traditionnellement l'étonnement et le questionnement. Et cette mise en question philosophique porterait donc contre les concepts reçus traditionnellement pour des concepts qui seraient nouvellement élaborés. Bon, cette vulgate est fidèle à l'idéal de raison, évidemment, d'identité sans contradiction, mais elle se heurte à une difficulté existentielle. Non pas seulement, vous connaissez peut-être la triade que Deleuze avait mis en avant, le concept, l'affect et le percept. Donc, non pas seulement parce qu'à côté des concepts, il y a les affects et les percepts, ou les affections et les perceptions, qui manqueraient au concept, mais parce que cette perspective comporte et emporte la triade avec un soubassement qui est le langage. Et cette question du langage, contrairement à des réactions actuelles qui se disent réalistes ou qui se voudraient remettre en avant le drapeau du réalisme, cette question du langage, je pense, à mon sens, ne doit pas être abandonnée de façon essentielle. Parce qu'aussi bien les concepts que les affects, que les percepts, que les affections et les perceptions, sont toujours traversés de langage dans leur élaboration même, si on veut bien ne pas confondre la sensation brute, par exemple, et la perception. Pourquoi ? Mais parce que la quête d'une représentation ajustée, sinon adéquate au réel, c'est-à-dire à ce qui est impossible à représenter, je me permets de distinguer le monde et le réel, parce que, ou la réalité et le réel. C'est peut-être un peu difficile, mais enfin, c'est pas difficile, mais c'est un peu surprenant. Mais parce que si on parle du réel, à quoi avons-nous affaire ? À l'un tout, évidemment plus personne n'y croit, à quelque chose en tout cas qu'on ne peut pas saisir. Le réel, ça ne se saisit pas en soi comme une unité totale précisément. Ça ne se saisit pas non plus comme un pur chaos, parce que si on reçoit le réel comme un pur chaos, on est dans le non-sens absolu. Donc, d'emblée, précisément, la représentation, c'est ce qui est dans le réel, bien entendu, mais ce qui se heurte au réel. Donc la quête d'une représentation ajustée, le plus possible, hante la philosophie, évidemment, comme elle hante chaque existence. Le heurt initial et initiateur de chaque devenir humain est toujours celui-ci. Quelles que soient mes perceptions, mes affections, mes conceptions, a fortiori mes activités, elle n'échappe pas aux représentations que j'en fais. Et en tant qu'humain, celles-ci dépendent de mes langages, de leur représentation. Je dis mes langages, puisque on pourrait dire le symbolique si on veut, mais le mot symbolique est toujours un peu équivoque. Donc le symbolique, ça n'est pas les symboles. Hein, c'est tout ce qui est porté par, si on veut une représentation, moi j'aime mieux dire une signifiance, mais qui est aussi bien dans nos perceptions que dans nos conceptions, que dans nos affections, bien entendu. Hein. L'affect de l'amour, pour en donner l'exemple le plus simple, est évidemment bien au-delà d'un simple affect brut. Il est toujours porté par toute une histoire qui elle-même est portée par toute une expérience de rencontres, de discours, de marques, etc. Donc, l'heurte initiale de chaque devenir humain est toujours celui-là. Et j'ai toujours des représentations qui dépendent de mes langages, de mes langues et de mes langages, on va dire. Et d'abord, évidemment, de mon langage, qui est le langage que j'apprends, par lequel je suis parlé et parlant. Autrement dit, la philosophie commence avec la mise en jeu réflexif sous toutes les formes possibles. Toujours, les représentations, c'est plutôt des formes. Des tentatives de formation du monde, justement, à partir du réel qui, pour nous, est d'abord irreprésentable. Donc la philosophie commence toujours avec la mise en jeu du réflexif sous toutes les formes possibles de l'écart entre, à première approximation, les mots et les choses, hein, c'est connu, les représentations et le monde, une autre façon de le dire, c'est-à-dire les choses, les autres, leurs relations, l'écart entre ce qui apparaît, pour le dire de façon un peu plus cernée, ou plutôt de ce qui passe, je dirais même, de ce qui passe, de ce qui devient. Wyatt, un grand philosophe du début du 19e, qui a écrit sur la relativité, entre autres, dit que la nature est toujours de passage. Donc même si on entend réel par nature, ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est aussi approximatif que le mot réel, mais en tout cas l'idée de passage est bien vue. Donc c'est ce qui apparaît, ce qui passe et ce qui m'apparaît. Voilà, il y a un écart entre ce qui apparaît, ce qui passe et ce qui m'apparaît dans mes langages. Ce que je reçois en le transformant dans mes langages, l'écart donc entre le phénomène et le logos. Deux mots grecs, évidemment, phainomenon et logos, entre ce qui apparaît et le langage, deux mots grecs, qui est le premier, comme vous savez, le premier langage en philosophie. Je me permets parfois de dire comme ça, c'est pas qu'une boutade, que le pont aux âmes de la philosophie, pour moi, c'est la différence entre le langage et le phénomène. Percevoir le problème philosophique, c'est percevoir cette différence qui fait qu'il n'y a pas de phénomène brut pour nous. Il n'y a que des phénomènes pris dans des langages. Et toute la difficulté est là. Alors, pour avancer un petit peu, cette genèse de la philosophie, qui au fond rejoue la genèse de tout humain, permet de comprendre son histoire, ses courants, ses grands noms, la perpétuelle remise en jeu de son langage. Une perpétuelle remise en jeu, j'aimerais le dire en passage, qui n'implique pas du tout que la philosophie, ne progresse pas. J'ose même employer le mot « progresser ». Je sais qu'on réserve d'habitude le mot de progrès aux sciences, qu'on fait comme si le devenir de la physique ou de la chimie ou de la biologie est purement quantitatif et est une accumulation de vérités qui sont toutes incontestables. C'est déjà une image fausse du développement scientifique. Mais je pense que ce crédit qu'on fait aux sciences, évidemment dans un autre contexte, doit être fait aussi à la philosophie. Il est tout à fait faux de dire... Enfin, je ne sais pas si beaucoup de gens se souviennent ici d'Althusser, de dire des choses du genre « la philosophie n'a jamais fait que répéter la différence entre idéalisme et matérialisme et à tracer le parti de l'un ou le parti de l'autre ». Ce n'est pas vrai. Il y a des apports définitifs de Platon et définitifs de Kant. Et il est hors de question de dire que tout ça ne fait qu'effacer le précédent ou ne fait que se perdre, de laisser perdu le précédent. Enfin, que sais-je, il y a véritablement à chaque fois des perspectives nouvelles, précisément, qui sont ouvertes sur ce rapport du phénomène et du langage. Perpétuelle remise en jeu du langage, ça veut dire évidemment de ses insuffisances, puisqu'il faut le remettre tout le temps en question, de ses manquements, de ses incertitudes, de ses incomplétudes. L'activité philosophique contemporaine a peut-être plus que jamais affronté ce heurt entre langage et réel. Si réel ne signifie donc pas un monde donné et reçu, hein, mais un écart entre ce monde et le réel qui ne se représente pas. Le réel qui bien sûr nous précède. J'ai une petite formule mais à laquelle je tiens fort. Le réel, si vous voulez, c'est ce qui est déjà là. Mais le déjà là n'est pas donné pour l'être humain, précisément. Le déjà là n'est pas donné. Ce qui est déjà là, bien sûr, mais il est toujours pris dans une donation, celle que l'on nous donne traditionnellement et celle que nous nous donnons en existant. Donc un écart entre le monde et le réel qui ne se représente pas, qui ne se fixe pas une fois pour toutes dans un système de concepts, ce qu'on peut épingler sous le nom de métaphysique. Évidemment, on peut dire qu'il y a eu un durcissement des grandes philosophies sur une forme de système qu'on peut appeler la métaphysique. Durcissement en dualisme, en idéalisme, on peut y accoler beaucoup d'étiquettes, mais enfin, de façon plus précise encore, de représentations qui oublient justement le langage, hein, qui croient que la signification peut dominer seule, etc. Ce qui est le cas d'aucun grand philosophe, bien entendu. Ainsi, à contrario, la contingence du réel semble entraîner la présentation de celui-ci comme chaos, ou la non-représentation de celui-ci comme chaos, puisqu'on ne peut pas représenter le chaos. Même les approches rigoureuses, parce qu'expérimentées, de fragments du réel, et c'est ce qu'on cesse de faire en science, hein. On peut dire que les sciences nous donnent des fragments de réel, un langage qui nous ouvre à des fragments de réel, physique, chimique, biologique, etc. Écologique, socio-économique, somatopsychique, voilà. Comme ça, j'ai fait presque le tour. Même ces représentations, donc, ces approches rigoureuses, parce qu'expérimentées de fragments du réel, rencontrent sinon le chaos, en tout cas les insuffisances, les manquements, les incertitudes quant à l'idée d'un réel qui serait réductible, car il se fixerait dans la forme de l'un tout. Et si tel est bien le cas, comment s'étonner que plus que jamais, l'activité philosophique contemporaine est non seulement tournée autour de la question du langage, on a même parlé d'un linguistic turn pour la philosophie du XXe siècle, mais surtout est forgée des langages qui n'offrent comme concept que des mots-questions, des mots et des phrases et des textes qui comportent et déportent l'indétermination de nos représentations. De la critique de l'usage de la raison à l'usage de la langue commune, de la critique de l'usage de la langue commune, à la destruction, à la mise entre parenthèses, à la déconstruction, pardon, excusez-moi, le programme de la philosophie, tous ces mots-là sont des mots qui couvrent des activités philosophiques depuis 2 siècles au moins. Le programme de la philosophie se révèle de plus en plus, en un sens, négatif, mais pris dans des jeux de langage. Et je donnerai rapidement 3 exemples. Le premier exemple est évidemment la philosophie politique. Dans les mots politiques et surtout les mots nous introduisent à ce qui pour nous est tout de même l'essence de la politique, c'est-à-dire la démocratie, dans les mots politique, de démocratie, de droit humain, de savoir, de pouvoir, de peuple, de nation, de société, d'État, tous ces mots, il y a eu des remises en question qui ont apporté, je disais qu'il y avait comme des progrès, en tout cas des progressions. Je préfère des progressions, évidemment, à des progrès, qui sont, par exemple, le fait qu'il y a la séparation du pouvoir. C'est un concept philosophique, mais c'est quelque chose d'essentiel. On comprend qu'il n'y a pas de démocratie sans séparation du pouvoir. Les pouvoirs doivent se séparer, législatif, judiciaire, exécutif, au moins, mais bien au-delà aussi. La société doit reconnaître et mettre en jeu la prégnance des pouvoirs et leur reproduction hiérarchique dans le système social qui lui-même est fait de division. Donc la démocratie, c'est la reconnaissance de la division, du réel de division, justement. Toutes les grandes œuvres, je ne citerai aucun nom, mais je pourrais citer tous les noms de philosophes du XXe siècle ou même du XIXe. La politique ne peut régir la totalité de la société. En particulier, elle ne peut pas régir la sphère privée. Le savoir doit se départir du pouvoir, qu'il entraîne pourtant, en particulier le pouvoir sur le corps et sur la vie. Le pouvoir en démocratie n'appartient à personne, et il n'advient que dans la division irréductible qui est celle de la pluralité. L'indétermination, sinon l'anarchie, détient cette division du peuple. Si la division est le réel du peuple, est le réel du vivre ensemble avant d'être une relation, et pour être une relation, il a d'abord une sorte de fond anarchique. Et peut-être aussi le principe le plus fort qui a émergé ces dernières années, à savoir que échapper à la servitude volontaire, ça devient connu maintenant, mais ça exige un double refus, celui de commander et celui d'obéir. Pas seulement le refus d'obéir, mais aussi le refus de commander. Autre exemple, c'est l'anti-métaphysique. L'anti-métaphysique, bien sûr aussi c'est négatif, là, c'est une lutte négative. La raison classique, nous dit cette lutte anti-métaphysique, la raison classique ne peut légiférer sur les questions qui échappent à l'unité de l'intuition et de l'entendement. Mais il faut aussi l'imagination, mais il faut aussi le jugement. Donc on n'est plus dans la raison uniquement. On est dans l'entendement et l'intuition, on est en plus dans l'imagination et en plus dans le jugement. Donc vous voyez comment tous ces concepts ne se suffisent jamais à eux-mêmes et rebondissent les uns sur les autres. Ou autrement, le réel et le temps sont indiscernables. Bon, c'est pour ça que le livre que je viens de publier dans sa première partie s'appelle « Le devenir ». Un devenir sans l'être. Si l'être est quelque chose de figé, je ne dis pas que c'est le sens de Heidegger, mais si l'être est quelque chose de figé, bien entendu, il ne désigne pas du tout le réel. Et au contraire, le devenir s'approche un peu mieux de quelque chose comme le réel. La finitude marque l'existence. Les mots sont usés, sinon à détruire. Les préjugés et les valeurs doivent subir la mise entre parenthèses, le recul par rapport à leur époque.
Le sens dépend de l'usage ou de l'activité, sinon des perceptions ou des choses, ou de l'événement. Les textes sont à déconstruire. Le rationnel, parfois, enfin souvent même, du fait de ce heurt qui lui est constitutif, qui est constitutif de tout langage, a toujours besoin du raisonnable, qui n'est pas du tout réductible au rationnel. Et enfin, dernier exemple, ce sont les ouvertures que l'activité philosophique, à mon avis, a montrées depuis au moins, comme je disais, 2 siècles. Le réel ne se sépare pas d'une construction du monde. La différence, et même la différence avec un A, là, si quelques-uns, je suppose que la plupart d'entre vous reconnaîtraient tout de même un nom, j'ai dit que j'en prononcerais pas. Donc, c'est-à-dire ce qui diffère. C'est un peu comme l'idée d'écart, mais c'est aussi le retard dans l'écart et les différences. La différence avec un A creuse les différences et les altérités. Donc, le concept comme identité est ébranlé, là, évidemment, et au contraire est ouvert. La dissémination même déporte les polysémies. Il ne suffit pas de dire que chaque mot est polysémique, il se dissémine, il ouvre son sens à lui-même, et à ses sens à lui-même, à eux-mêmes. Le devenir entre mobilité et brisure, le mot brisure, j'aime bien ce mot-là, mais parce qu'il ne signifie pas une rupture, il signifie une articulation dans la rupture. Si mon bras est brisé, il n'est pas cassé en deux, il n'est pas séparé, on pourra le réparer. Entre passage et cristallisation, tout ça outrepasse les multiplicités. La plasticité, ou les perspectives, je dirais mieux, accompagne la contingence, comme les régulations accompagnent le hasard du jeu du réel et du jeu du monde. Voilà, bien entendu, cette petite présentation que je viens de vous faire n'échappe pas elle-même à la représentation. Et elle demanderait de longues explications discutables. Mais je voulais vous donner une impression à travers ce flot que je vous déverse là peut-être un peu trop vite, sûrement trop vite. Voilà. Et donc, comme j'insiste sur le fait que si je n'ai prononcé aucun grand nom de la philosophie du 20e ou même déjà de la fin du 18e jusqu'à aujourd'hui, c'est cependant en m'appuyant sur eux que j'ai tenté cette petite présentation.
Merci, Éric Clémence, pour cette petite présentation d'une grande densité. Oui. Néanmoins, je vous passe la parole, Elisabeth Rigal, pour vous entendre à votre tour. Et avant de dialoguer.
J'ai prononcé beaucoup de noms, essayer de dire un peu ce qui se passe dans la philosophie, en tout cas française aujourd'hui, une espèce de moment un peu difficile qu'elle traverse. Quand sommes-nous ? Demande le poète-philosophe Michel Degui, récemment disparu. Sa réponse alarmiste montre qu'une mutation est en cours, qui n'est autre que celle qu'épingle Jean-Luc Godard par le titre de son film de 2014, « Adieu au langage ». Or, explique Degui, une telle mutation est calamiteuse, comme Godard nous en prévient, et cela parce qu'elle affranchit l'image de son alliage avec le disciple, et qu'un tel affranchissement génère un règne d'hypervisibilité qui est source en réalité de cécité, étant donné que seul le logos peut donner vue sur le non patent, sur le peu visible. S'il me paraît opportun d'entamer mon intervention en invoquant la figure de Degui, c'est parce qu'Éric est comme lui et comme Max Leroux, chacun à leur manière, un penseur, ce sont des penseurs de la genèse logo-phénoménologique, vous venez de l'entendre d'ailleurs. Degui affirme qu'il y a immersion simultanée de l'infance dans le monde et dans l'élément du langage. Leroux invoque le cri éclaté en vue et Éric explique, il vient de nous le rappeler, mais néanmoins, dans le fictionnel et le fictif, il nous explique que notre naissance a lieu de façon logo-phénoménale, que nous apparaissons dans le langage et sommes parlés puis parlants dans la phénoménalisation. Et quoique mon fil ne soit pas exactement celui de la Genèse conçue comme engendrement et réengendrement perpétuel, qui est le leur, je n'en suis pas moins convaincu, comme eux, entièrement convaincu, qu'il y a entre dons du langage et du monde, et que cela fait de nous, comme l'expliquait Lacan, des par-lettres. Je suis donc aussi convaincu que la question du langage n'est pas une question ponctuelle qui pourrait être réglée soit par une science, soit par une philosophie du langage, mais qu'elle est une question transversale, coextensive à tous les grands motifs de la philosophie. À vrai dire, les différents penseurs qui ont cherché dans les années 60-80 du siècle dernier à dégeler les paroles gelées ont reconnu en elles une question séminale. Certes, ils l'ont instruite en empruntant des chemins parfois très divergents, mais c'est néanmoins à sa lumière qu'ils ont tous cherché à comprendre la façon dont nous habitons le monde et dont nous le façonnons. Aussi est-ce une méprise totale, mais qui a assez fréquemment été faite, que de prétendre qu'en affirmant qu'il n'y a pas de hors-texte, Jacques Derrida, le père de la déconstruction, qu'a évoqué Éric sans évoquer son nom, puisque c'est de lui qu'il s'agissait. Donc Jacques Derrida, le père de la déconstruction, qui a fait, je le rappelle, ses premières armes dans la phénoménologie de Husserl et de Heidegger, chercherait à nous convaincre que tout n'est que langage. Prétendre cela, c'est en effet passer outre le fait qu'aux yeux de Derrida, les renvois entre signifiants, loin de relever d'un pur jeux intralangagiers sont en prise sur le réel et que, par conséquent, la déconstruction ne considère pas le langage et le monde comme deux univers se faisant face qu'il s'agirait de mettre en rapport. Or, Derrida a été, je tiens à le rappeler, le bouc émissaire d'un colloque qui s'est tenu en Sorbonne en janvier dernier et qui a été ouvert par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jean-Marie Blanquer. Ce colloque, intitulé « Après la déconstruction, reconstruire les sciences de la culture », a aussi pris comme pour cible Foucault, Deleuze, Lacan et quelques autres, tous mis dans le même sac et vilipendés par une soixantaine d'intervenants ayant troqué leur habit d'universitaire contre celui d'inquisiteur, au motif que ce que l'on a nommé de l'autre côté de l'Atlantique French Theory, par quoi on regroupe tous les philosophes que je viens de citer et quelques autres, donc la French Theory serait l'ancêtre d'un wokisme cherchant à détruire les valeurs républicaines en même temps que la démocratie. François Rastier, qui y intervenait dans ce colloque, n'a pas hésité à affirmer péremptoirement ceci dans un texte qui est consultable en ligne. Je le cite, « Dans De la grammatologie, Derrida publiait en 1966 un essai où il multipliait les critiques contre Saussure sans nulle base textuelle documentée, formulant une accusation de logocentrisme, tiré concept repris du théoricien nazi Ludwig Klag. » Fin de citation. On croit rêver. En tout cas, l'assimilation entre déconstruction et destruction suggérée par le titre du colloque montre que ses organisateurs n'ont manifestement pas lu Derrida, puisque celui-ci écrit noir sur blanc dans Psyché, les déconstructions seraient faibles si elles étaient négatives et si elles ne construisaient pas. Fin de citation. Passons. Ce qu'il m'importe de souligner pour engager la discussion, c'est d'abord qu'il y a, dans la philosophie, telle qu'elle se fait depuis une trentaine d'années, un certain lâchage, ou en tout cas une sogandarisation de la question du langage, et que cela est, sous tout rapport, fort dommageable. De cette désaffection témoigne de façon parlante, je crois, l'émergence pendant cette période des deux courants réalistes qui sont en partie issus d'une hybridation de la philosophie analytique et de la philosophie continentale et qui occupent aujourd'hui le devant de la scène universitaire. Ces deux courants sont le réalisme dit spéculatif qui est d'abord apparu et ce que l'on nomme, en reprenant un label qui avait été appliqué à l'intérieur de l'histoire de l'art, le nouveau réalisme. Pour donner une idée de leur débat interne, eu égard à la question qui m'occupe, et sans préjuger de leurs apports effectifs sur tel ou tel point, ce n'est pas mon problème, j'indiquerai sommairement les présupposés de Quentin Meillassou dans « Après la finitude », qui se réclame donc du réalisme spéculatif, et de Jocelyn Benoît dans « Le bruit du sensible », qui est lui un nouveau réaliste. Meillassou, qui fut élève de Badiou, convie la philosophie à sortir de la prison de la conscience et du langage pour retrouver ce qu'il nomme le grand dehors, qu'il conçoit comme une matière inerte, sans vie. Et retrouver le grand dehors, cela veut dire pour lui reconnaître qu'il n'est pas vrai, contrairement à ce que Kant a soutenu, que nous n'ayons aucun accès à l'être lui-même, mais seulement à la corrélation de la pensée à l'être, car en réalité, il est possible de penser des objets sans les corréler à un sujet. Meillassou nous invite donc à secouer le joug de la finitude dans laquelle Kant, puis Heidegger, mais aussi Derrida nous ont cru enfermés, et cela en vue de penser l'absolu sur la base d'une ontologie mathématique. Jocelyn Benoît, pour sa part, entend nous ramener sur Terre. Son parcours sinueux, qui l'a d'abord conduit à récuser le tournant transcendantal de la phénoménologie husserlienne au profit d'une philosophie du langage et de l'esprit proposant une approche sémantico-pragmatique de l'intentionnalité, l'a récemment conduit à montrer que pour mener à bien un tel projet, il fallait prendre en compte l'affirmation de John Austin, le philosophe des speech acts, selon laquelle les sens sont muets. Et qu'il fallait donc explorer, dans toute sa finesse et sa concrétude, le grain du sensible, et que cela permettait de dissiper, mais bien sûr par un tout autre chemin que Meillassou, ce qu'il présente comme, lui, le spectre quelque peu ridicule du corrélationnisme et qu'il caractérise en termes de tigre de papier de la pensée postmoderne. Benoît s'engage donc dans une enquête sur la texture réelle et poétique du sensible, en vue d'établir les droits du réel, non en tant que phénomène, mais en tant que réel. À cette fin, il introduit une distinction quelque peu scolastique entre être ce que c'est et être ceci ou cela, il explique que la teneur de réalité du matériau perçu ne se limite aucunement aux aspects déterminés qui en sont perçus dans la perception elle-même. Ce qui lui permet de dénoncer, à l'instar d'un certain McDowell, le mythe du donné, mais en contredisant littéralement la thèse du même McDowell. Celui-ci soutient en effet, dans le sillage de Kant, qu'il n'y a pas de perçu sans mise en œuvre d'une capacité conceptuelle, et Benoît lui rétorque qu'il faut penser le réel comme un préalable absolu avec lequel nous sommes d'emblée en contact et qui n'a donc aucunement à nous être donné. Ce n'est donc pas chez lui en faisant appel à un grand dehors, mais au contraire en reconnaissant que nous sommes dans le réel et que nous disposons de lui, ce n'est donc pas du tout le réel, puisque nous en disposons, dont nous parlait Eric. C'est donc ainsi qu'il propose, lui, Benoît, d'en finir avec le spectre du corrélationnisme qui plane sur la philosophie depuis Kant. Les credos réalistes contemporains, tels que je viens de les résumer très grossièrement, très succinctement, n'ont pas manqué, on s'en doute, de susciter certaines levées du bouclier, notamment de la part d'une historienne de la philosophie très sérieuse, très rigoureuse, nommée Isabelle Thomas Fogiel, qui, dans Le lieu de l'universel, paru en 2015, met en évidence les impasses des différents réalismes promus par la philosophie des 30 dernières années, car il y a beaucoup de protagonistes dans ce débat interne au réalisme. Ces analyses, le plus souvent pertinentes, ne laissent cependant aucun doute sur le fait qu'elle ne prend pas au sérieux la déconstruction ni les courants postmodernes. Aussi, en dernier ressort, la controverse intéressante qu'elle a engagée en compagnie de quelques autres avec le réalisme témoigne-t-elle de ce que l'un des soucis principaux du courant dominant de la philosophie qui se fait aujourd'hui est de ranimer l'antique controverse entre réaliste et idéaliste, ou pour le dire en termes anglo-saxons, entre réaliste et anti-réaliste, en redéfinissant les termes. Or, on est en droit, je crois, de s'interroger sur la capacité de ce genre de controverse à nourrir une réflexion qui puisse être vraiment féconde et nous faire avancer, puisque Nietzsche et quelques autres après lui nous ont prévenu que les termes oppositionnels dans lesquels la tradition métaphysique avait mené ses controverses piégeaient immanquablement le questionnement. Tous ces dualismes, âme-corps, réalisme, idéalisme, tout cela fonctionne comme piège selon Nietzsche. Et je dois à outre avouer qu'il y a quelque chose qui me gêne considérablement dans la posture d'Isabelle Thomas Fogiel. C'est le rôle de tête de Turc, et je n'en rajoute pas en disant cela, qu'elle fait jouer dans ses argumentations à Wittgenstein. Elle souligne, non sans raison, que Wittgenstein est une référence obligatoire que la philosophie contemporaine cite toujours, et en référence à laquelle elle se positionne. Mais tout le problème est que Thomas Fogiel accrédite sans plus ample examen l'image qu'en donne la vulgate wittgensteinienne. Image qui fait de Wittgenstein un penseur qui a d'abord soutenu une position réaliste et qui s'est ensuite retourné et alors sombré dans le relativisme sceptique. Or, quiconque le lit, et il faut bien le lire quand on le traduit comme je l'ai fait, se rend très vite compte que cette image n'est absolument pas recevable et que Wittgenstein est en réalité un penseur atypique qui excède les différents moules dans lesquels on a cherché à le faire entrer. Et si on le lit vraiment, je veux dire en prêtant attention aux méandres de sa pensée et aux aspérités, lesquelles sont nombreuses, on se rend aussi compte qu'à l'instar de Nietzsche, mais aussi de Derrida qui explique que la déconstruction se doit de démanteler les dualismes de la métaphysique, ce qu'il appelle la structure oppositionnelle de la métaphysique, qu'il considère comme constitutive de la métaphysique comme telle, dont à l'instar de Nietzsche et de Derrida, mais par de tout autre moyen selon tout autre style, qui ne passe pas par le fil de l'histoire de la philosophie, Wittgenstein n'a cessé de souligner la stérilité des controverses métaphysiques, notamment de celles qui opposent les mentalistes et les behavioristes, ou les platoniciens et les intuitionnistes en philosophie des mathématiques. Et qu'il l'a fait au motif que de telles controverses ne peuvent que finir par occulter les vraies questions, les faire perdre de vue. Et c'est cela qu'il a convaincu que la fonction première de la philosophie est une fonction thérapeutique visant à dénouer les nœuds de notre entendement. Effectivement, montrer que ce sont les pièges, ce que sont les pièges du langage et comment leur échapper, fut chez lui un souci constant. Et qui a peut-être un peu, il s'est peut-être un peu enfermé dans ce projet purement thérapeutique. En tout cas, cela ne veut pas dire, s'il s'agit de démanteler les pièges du langage, cela ne veut pas dire pour autant que Wittgenstein aurait diabolisé le langage, ni qu'il aurait secondarisé la question du langage, puisqu'il explique que dans certains jeux de langage, notamment ceux de la poésie ou de la littérature, nous recevons une impression des signes eux-mêmes. Et cela ne veut pas dire non plus qu'il aurait rêvé de construire une langue artificielle ayant un caractère universel. De l'espéranto, il dit en effet ceci, que je cite, « Sentiment de dégoût quand nous prononçons un mot inventé. Le mot est froid, il ne possède aucune connotation et pourtant il joue à avoir un sens. » Mais si salubre soit-elle, la thérapie philosophique, sous la forme en tout cas où Wittgenstein l'a pratiquée, ne saurait nous aider à poser et à instruire les questions que la mutation en cours de notre monde exige que l'on se pose, à savoir des questions afférant au vivre ensemble, au vivre dans la cité. Wittgenstein, en effet, n'a soufflé mot de ces questions, si ce n'est incidemment, dans ses carnets de notes, pour déplorer les ténèbres de notre temps. Or, ne pas se dérober à ce versant du questionnement, le versant politique donc, est à mon sens une injonction impérative. Et c'est une injonction à laquelle Eric s'attache à répondre dans certains de ses livres, et c'est aussi une injonction à laquelle la déconstruction d'Héridienne ne s'est aucunement dérobée, bien au contraire. N'en déplaise aux inquisiteurs que j'évoquais en commençant, Derrida est un défenseur et non un fossoyeur de la démocratie, mais c'en est un défenseur dont le questionnement dénonce, je le cite un peu longuement pour finir, comme d'obscènes alibis, les discours sur les droits de l'homme ou sur la démocratie qui, je cite toujours, s'accommodent de la misère effroyable de milliards de mortels abandonnés à la malnutrition, à la maladie, à l'humiliation et privés non seulement d'eau et de pain, d'égalité et de liberté, mais aussi dépossédés des droits de chacun.
Merci, merci Elisabeth Rigal de cette prise de position qui est aussi une description d'un moment philosophique dans lequel nous sommes, qui est aussi un moment, on l'a compris, politique, parce que les deux sont liés et ce colloque que vous avez évoqué permet de prendre la mesure d'un certain état du débat philosophique. Moi, ce qui me frappe en vous entendant, et après avoir entendu Éric Clémence, c'est aussi l'idée d'une très grande fragmentation de ce paysage philosophique. Certes, il y a des controverses, mais on a aussi le sentiment que beaucoup de gens travaillent en étanchéité totale avec d'autres groupes. Alors, ces logiques de spécialisation, on les voit à l'œuvre dans beaucoup des disciplines, hein, des sciences humaines et sociales, mais elles me semblent très marquées en philosophie. Et donc, je voulais partir de là pour reposer la question à Éric Clémence à propos d'une remarque qu'il a faite tout à l'heure, de l'idée, il n'a pas prononcé le mot comme ça, mais moi, c'est ce que j'ai entendu, d'une forme de recherche de cumulativité, au fond,
de la philosophie, en tous les cas de progression, a-t-il dit, en préférant l'idée à celle de progrès, l'idée qu'au fond, il y a des acquis en philosophie. Il citait Platon ou je ne sais plus, ou Kant, mais ça aurait pu être des auteurs même plus récents, probablement. Et donc, voilà, donc ma question, c'est comment on fait avec cette ambition de progression, cette ambition d'arriver à des acquis dans une situation de très grande fragmentation dans laquelle nous nous trouvons?
Oui, ben la réponse globale, c'est de dire que les fragmentations sont des perspectives. Et que c'est pour ça, évidemment, cumuler, ça c'est... Je crois pas que je ne dirais pas qu'on cumule les vérités en philosophie. Mais par contre, que les grandes forces philosophiques sont toujours des perspectives qui demeurent, qui sont irréductibles. Parce que elles sont, malgré tout, comme tout langage, conscientes de leur insuffisance et partent de leur insuffisance. Quand on part de l'écart du réel et du langage, eh ben on part automatiquement de l'insuffisance du langage. Mais le paradoxe du langage, il est là. C'est qu'il a des potentialités illimitées. Donc nous nous trouvons dans le réel, bien entendu. Personne n'est hors du réel et le langage fait partie du réel. Mais ce réel que nous ne pouvons pas saisir comme un tout, eh ben ce réel, nous n'y avons accès que grâce au langage qui fragmente, mais qui fragmente depuis des potentialités infinies. Et c'est ces potentialités infinies du langage qui sont notre seule force, la force de notre liberté, c'est là qu'elle prend racine, avec toutes ces possibilités de destruction comme de construction, comme de création. Hein, c'est, bien entendu, le langage est aussi capable de négativité, enfin de destruction que de création. C'est ce jeu entre la force de limitation fragmentante d'un langage et le jeu illimité du langage que précisément, on ne peut pas dire que les langages se perdent, qu'ils sont tous relatifs, etc. Parce que chaque langage est une perspective issue de cette force illimitée de la pensée qui agit dans le langage et qui agit dans cette illimitation des langages, encore une fois. Il y a le langage de la peinture, il y a le langage même de la cuisine. Je veux dire, on pourrait à l'infini décrire ça. En tout cas, le langage de tout ce qui concerne la vue, est bien entendu, et de la musique, etc. Les arts sont en premier, mais pas seulement eux, quoi. Donc, autrement dit, il y a un mot que j'aime beaucoup, qui est une dépense de la force, de la puissance du langage, qui puise dans sa potentialité illimitée. On sait très bien qu'avec les mots dont nous disposons, on peut parler à l'infini, y compris dans le bavardage, bien entendu. Et c'est dans cette puissance que les fragmentations ont lieu, que des approches du réel ont lieu, et que nous dépassons ce qui, non seulement ne serait qu'un chaos, mais même la seule expérience non directe, je veux dire, non médiate du réel, c'est-à-dire quand nous nous heurtons, quand je me cogne, ou, enfin, il y a Lacan qui reprend très, très subtilement l'expérience de la physique, dit qu'il y a trois formes de langage, d'apport du réel, dont il dit d'abord qu'il est impossible à représenter. Il dit le réel, c'est contre quoi je me cogne, c'est ce qui revient à la même place. Bon, pour le névrosé, on voit bien. Et en même temps, ce qui fait trou, c'est-à-dire ce qui creuse le sens de l'incomplet, de l'ignorance, de l'indétermination, etc. Cette triple expérience, c'est aussi celle de la science, évidemment. Hein. L'astronomie, c'est ce qui montre les répétitions, c'est ce qui se répète. Ce qui fait trou, c'est aussi évidemment ce qui suscite l'obstacle dans le processus scientifique. Et bien entendu, ce qui heurte, c'est aussi un autre aspect de l'obstacle. C'est ce à quoi l'expérience échoue, etc. Ce dans quoi l'expérience échoue. Donc on voit que, aussi bien dans l'expérience physique du réel que dans l'expérience subjective du sujet humain du réel, ce réel apparaît sous ces trois formes-là. Et donc, que faire d'autre de ces trois formes, sinon en tirer moi j'appellerais ça une fragmentation, ou une fiction, un façonnement plutôt, parce que le mot fiction peut être équivoque, un façonnement qui tente une perspective et tente en même temps une activité, parce que ça n'a jamais cessé, de cette approche du réel. De cette plate approche, parce que le réel est là, mais de cette relation interne au réel que le langage a rompu, puisque le premier geste du langage, c'est évidemment d'interrompre le réel d'une certaine façon. Mais non pas l'interrompre pour en sortir, mais l'interrompre pour y marquer cet écart que j'indiquais.
Elisabeth Régal, qu'est-ce que vous répondriez à cette question de la... Reprenez le micro, s'il vous plaît. Le micro.
Je dirais, d'accord, Eric, les grandes pensées demeurent. Il y a des acquis et il y a des progressions. OK. Kant, ben, on ne s'en débarrassera pas. C'est évident, il fait partie du patrimoine, comme on dit. Mais il me semble, s'il y a dans des formes de débat, c'est ce que j'ai essayé de dire, parce que j'ai peut-être été un peu traumatisée par cette histoire de wokisme, aussi agacée par des manières dont la philosophie s'émiette dans ces débats que je trouve picropolins, il y a aussi des moments de piétinement où on passe à côté. Alors la progression, un exemple de progression, c'est ce qui se passe en 1928 quand il y a deux personnes qui lisent Kant, qui ont toutes les deux resteront. C'est Heidegger et Cassirer. Ils se rencontrent, là il y a un débat. Ils ne peuvent pas s'entendre, mais ils défendent un Kant. Ils défendent Kant. Ce n'est pas pour, larguer quelque chose. Tandis que là, on, par exemple, du côté du clan des réalistes, on largue Kant. On se débarrasse de Kant. Badiou, qui est le maître qui était le maître de Meyassou, maintenant fait son chemin, a dit que c'était lamentable cette finitude de Kant. On s'en débarrasse enfin grâce à Meyassou. Enfin, ça, c'est ridicule. C'est nier le progrès. Le fait qu'il y a des marques indélébiles, des gens qui resteront, il y a des figures qui font partie du patrimoine. Mais est-ce qu'il y a toujours progression? Est-ce qu'il n'y a pas des déplacements aussi? Il y a aussi des pas de côté. Moi, je suis moins pour cette... Progressons, non, ça...
Il y a des régressions tout autant. Hein.
Des moments de régression. Oui, parce que je pense qu'il y a dans la philosophie, disons, universitaire actuelle, par rapport à celle que j'ai connue quand j'étais étudiante, qui était vraiment bluffante. Je ne sais pas, elle nous a... Bon, il y a quand même une espèce d'affaissement, voilà.
Mais est-ce que...
Oui, oui, non, mais pardon, je veux juste souligner que la régression, c'est précisément ce qui nous réunit, parce qu'on a tout de même beaucoup d'auteurs en commun.
Oui, absolument.
À commencer par Derrida, Granel, Lacan,
De Guy,
etc. Bon, moi, Wittgenstein, je le fréquente moins, malheureusement, mais je promets toujours d'y aller plus à fond.
Bon, je ne sais pas s'il faut le faire. Bon,
mais je veux dire, il est clair que c'est la question du langage ne peut pas être lâchée là-dedans. Et qu'effectivement, il y a régression si on ne voit pas que l'essence même, non seulement de la philosophie, mais de l'humanisation, est une traversée du langage, est une expérience du langage dans le réel, bien entendu. Et donc, c'est absurde de dire « nous sommes dans le réel », c'est tout à fait faux d'imaginer que tout se passe dans le langage. Bien entendu que tout ne se passe pas dans le langage. Tout se passe dans le langage qui est dans le réel et qui se heurte au réel, précisément, et qui creuse, mais qui s'y heurte, pas seulement en le subissant, mais en y creusant un écart. Et c'est ça la force de la philosophie, comme la force de l'humanisation. On pourrait le voir par rapport au problème animal, par exemple. Hein. Et par rapport à tous les déterminismes. Ce que nous disent les déterminismes, que ce soit celui de la grammaire, que ce soit celui du cerveau, que ce soit celui de la production, hein, tous les grands déterminismes auxquels on voudrait nous réduire, c'est précisément que le réel nous est donné une fois pour toutes et que nous ne pouvons que subir ce que nous dit que le cerveau, subir ce que nous dit que la grammaire, subir ce que nous dit que la production. Évidemment, non. C'est dans l'écart de tout ça que l'humanisation commence, et cet écart commence toujours par un écart de langage, évidemment, par un jeu. Le mot « jeu », je l'aime bien parce que, on peut le prendre comme un dépassement des dualismes aussi, mais il a aussi, quand on dit « il y a du jeu dans ce mécanisme », oui, il y a du jeu, effectivement. Peut-être qu'il y a du jeu dans le réel. Oui, s'il y a du hasard. Si on ne croit pas au hasard, évidemment, si on croit qu'il n'y a rien, que le hasard ne joue aucun rôle nulle part et que tout est déterminé, bien entendu, il n'y a pas de jeu. Mais si on croit qu'il y a du jeu dans le réel, eh bien, précisément, c'est ce jeu qui permet l'écart et qui fait que le jeu n'est pas donné. D'ailleurs, ce qui est très paradoxal, quand Jean-Marie Benoît, là, est assez significatif. Pas Jean-Marie. Jocelyn Benoît. Jean-Marie Benoît, c'était il y a 30 ans, celui-là, oui. Non, Jocelyn Benoît, c'est qu'il reconnaît que le mythe du donné est un mythe, que le donné est un mythe. Oui. Il le reconnaît explicitement, oui. Mais il n'en tire pas les. Donc, il n'en est pas conséquent. Oui. Et que donc, si le donné est un mythe, à ce moment-là, il faut bien qu'il y ait construction, il faut bien qu'il y ait une élaboration, il faut bien qu'il y ait un façonnement, et il faut bien qu'il y ait, dans ce façonnement, une puissance du langage.
Elisabeth Rigal, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Je voulais juste revenir, on est d'accord sur la question de fond, mais là où je ne suis pas tout à fait, c'est sur cette histoire de progression. Tu me concèdes, oui, il y a des régressions, je pense que dans une époque un peu d'aplatissement, mais je pense que le schéma progression, enfin, ça vous semblera peut-être un peu trop formel, mais je le dis très vite, me semble pas tout à fait adéquat, parce que il y a aussi des réappropriations. Il y a des moments de... Quand Heidegger et Cassirer lisent Kant, ils activent quelque chose, ils font apparaître autre chose. Mais ce n'est pas une progression. Il y a des mutations, pas au sens où j'allais parler en citant De Guy, mais des mutations. On va ailleurs. Je vois ça beaucoup moins linéaire que toi, disons.
Ah non, mais je ne pense Mais évidemment, mais c'est un peu par provocation que j'emploie ce mot-là. Mais c'est parce qu'on présente tellement la philosophie comme quelque chose de répétitif, avec des débats qui sont toujours les mêmes. Le gros débat, idéalisme, matérialisme. Oui.
Mais justement,
j'ai voulu échapper à ça.
Est-ce qu'il n'y a pas là...
Le mot perspective est le mot que je préfère.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un trait... moi, j'ai toujours eu le sentiment que c'était assez français, assez spécifique à la philosophie française. Le fait que, au fond, depuis longtemps, la philosophie en France donne le sentiment de faire davantage de l'histoire de la philosophie que de la philosophie. Qu'on a des gens qui commentent des textes, qui racontent l'histoire des philosophes et qui ne font que ça. Pour prendre un exemple d'un type de philosophie que je connais mieux, qui est la philosophie, la théorie de la justice ou la philosophie politique. Ce qui s'est passé au séminaire autour de John Rawls à la fin des années 60, qui a donné non seulement le livre de Rawls, mais celui de Kim Lika, celui de Charles Taylor, celui de j'en oublie, de Nozick, etc. On avait là des gens qui discutaient, qui étaient en désaccord les uns avec les autres, qui ont produit chacun un grand livre et qui n'étaient pas en train de se demander ce que Platon pensait de ceci ou de cela, qui étaient en train de produire de la philosophie. Et alors même que dans le même temps, en France, on avait de l'histoire des idées politiques sur ces mêmes sujets, ou de l'histoire de la philosophie politique. Et donc, j'ai le sentiment, je pourrais prendre des exemples en Allemagne, autour de Habermas, où il y avait là aussi de la production philosophique, là où on était ici prisonnier du commentaire, au fond.
Moi, je n'ai pas du tout cette impression. En France, on avait Castoriadis, le fort, qui apportait autant... à mon avis, beaucoup plus d'ailleurs que Habermas, Sonnet, etc. Et les Allemands à la même époque. Je pense que, justement, l'idée que le réel dans le social, dans le sociopolitique, c'est la division, c'est une idée très forte de Lefort, de Claude Lefort. Et donc, là, il y a un pas de plus de nouveau. Donc, on peut dire le réel, c'est ce à quoi je me heurte, c'est ce qui revient à la même place, donc ce qui se répète, ou c'est ce qui fait trou. On peut aussi dire que le réel, c'est la division. Et est démocrate quelqu'un qui part de la division et qui sait que la division est irréductible. C'est en quoi elle est réelle. Il n'y a pas de société sans division à l'intérieur de la société. C'est ce que tous les programmes totalisants bien entendu les grands programmes totalitaires, mais même des programmes écologiques, quand ils sont trop totalisants, ne voient plus, hein, oublient. Il ne s'agit pas de mettre la Terre à la place comme une espèce d'unité, comme une espèce de lien donné. De nouveau, on retombe sur le mythe du donné, à la place de... La Tour veut faire ça. Enfin, c'est une des dernières catastrophes philosophiques. C'est le succès de la Tour, de Bruno Latour.
Ça, on ne sera pas d'accord, mais c'est
oui,
pas
oui,
grave.
Oui, mais c'est pas grave. Mais je pense qu'il est passé, lui, de naturalisme au sociologisme, ou non, du sociologisme, quand il critiquait les sciences, au naturalisme aujourd'hui. Enfin, maintenant, il est décédé, mais il a terminé là-dessus, avec, en essayant une pirouette, avant, juste avant de mourir, d'inventer une politique. En prenant des faux concepts comme l'éco-classe et des choses comme ça qui n'ont aucune réalité. Donc voilà, et qui escamote
la
question
débat avec vous,
de la division. Mais... Le problème politique, c'est le problème de la division et de la relation à faire à partir de cette division, entre autres. Et donc, y compris la division, effectivement, entre l'impact humain et la biosphère. Ça, c'est très vrai. Mais il n'y a pas en soi de la biosphère... D'ailleurs, il n'en parle jamais le mot biosphère. On dit la terre, la nature, en fait. Des mots aussi vagues. Hein.
Gaïa, Gaïa, quand même, c'est...
Ah, c'est la mère, quoi.
Oui,
c'est le mythe maternel, nutritiel, etc.
Non, moi, je ne veux pas me prononcer, je garde le fil de la question, le fil formel.
Oui.
Moi, je pense que votre question, traiter la question elle-même... Je pense que vous avez raison en ceci que j'ai toujours fait de l'histoire de la philosophie, mais je pratique aussi des philosophes qui n'en font pas, comme Wittgenstein. Bon, mais vous avez raison en ceci que le problème du passage par l'histoire de la philosophie, ça donne une culture. Mais il y a un moment où on perd en route les questions. C'est ça le problème. Ça devient du commentarisme. Il me semble que c'est ce qui se passe même dans le texte de Fogiel, qui est un gros bouquin, ou ses interventions, où il y a des moments très intéressants et très forts. Ben, voilà. Donc le risque, il est là. Donc, il faut peut-être traverser des textes, autrement, on n'a rien, mais à un moment, essayer de s'en déprendre pour justement introduire ce que j'avais. Mutation, disons, en tournant quelque part. Où, voilà.
Mais alors, je prolonge la question, puisque vous avez fait œuvre de traduction beaucoup pour Wittgenstein. Un des problèmes aussi, peut-être, tient au fait, au décalage, à l'inertie. On a, ces dernières années, enfin, le résultat du panorama philosophique français me semble aussi le résultat de l'arrivée dans le débat français d'œuvres relativement ancienne, parce que je prenais l'exemple de Rawls, il a fallu 20 ans ou 25 ans pour que le livre soit traduit en France, alors qu'il a été beaucoup plus rapidement dans d'autres pays. Wittgenstein, on est encore en train de traduire, mais là aussi, il a fallu du temps pour prendre la mesure en France de l'importance de cette œuvre. On peut prendre d'autres courants, l'importance de l'influence du pragmatisme aujourd'hui dans la philosophie française, là aussi, alors même que à l'époque, Merleau-Ponty était un lecteur d'auteurs pragmatistes. Tout ça s'est perdu pendant une longue période avant de ressurgir à nouveau. Donc il y a ces décalages et il y a ce problème de la circulation des textes entre les langues qui fait qu'on a du mal à avoir un débat mondial, au fond, philosophique, qui soit synchrone, en quelque sorte.
Oui, ça, c'est très juste, mais qui fait ? D'autant que bon, les Français commencent à traduire, mais il y a un moment où les Français ne traduisaient rien. Quoi. Il y a une espèce d'allergie aux langues étrangères. Et, bon, ça, c'est quand même, il me semble, que c'est en train d'une barrière qui va plus se produire dans 50 ans. Que c'est, voilà, mais c'est vrai que c'est
un problème. Non, mais il y a tout de même quelque chose qui est une progression ou une perspective qui a été introduite par le courant de la déconstruction. Par exemple, par rapport à Habermas, l'idée de communication comme étant un donné, c'était une de ces aberrations. Honnête, c'est la même chose, c'est la reconnaissance. Ce sont des concepts qui ne sont pas interrogés. Donc là, il y a un manque de connaissance de la philosophie. Il y a un manque de l'histoire de la philosophie. Bien entendu, la reconnaissance, ça vient de Hegel, etc. Bien. Mais tout de même, si on relit la dialectique du maître et de l'esclave, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on invoque dans une philosophie telle que Honneth veut la défendre. Et la communication, enfin, Ça, c'est un mot que je trouve imprononçable. Pourquoi ? Parce que si on veut bien souvenir des schémas tout bêtes qu'on apprend à l'école, à savoir que communiquer, c'est un émetteur qui puise dans un code vers un récepteur, etc., enfin plus dans des bruits qui viennent interférer, il n'y a aucun de ces éléments qui est donné. Chacun de ces éléments, c'est une conquête. C'est quelque chose qui doit être élaboré, qui doit être façonné. J'élabore mon énonciation, j'élabore mon écoute. Il faut élaborer le canal par lequel on écoute. Il faut élaborer les codes qu'on emprunte. Et il faut en voir les limites, etc. Toutes ces exigences-là, bien entendu, c'est les exigences que la déconstruction a mis en avant. Donc, oui, quand je dis qu'il y a, je trouve que la déconstruction est une progression énorme dans l'histoire de la philosophie.
Non,
dans
mais
la
aussi.
Cristallisation qu'elle fait. Mais ça ne veut pas dire que tout est en philosophie et progression, bien entendu. Je trouve que la communication, l'idéologie de la communication, c'est une régression, que l'idéologie de la reconnaissance, c'est une régression qui justement, si on voit bien, la reconnaissance, elle méconnaît le réel de la division. C'est l'évidence. Hein.
Mais il faut brancher la question de l'altérité là-dessus.
Et de l'altérité, bien entendu.
Ça dépend si la reconnaissance est la reconnaissance en miroir ou si c'est la reconnaissance d'une différence irréductible à partir de là.
Voilà.
Je veux dire, il faut sortir de Hegel, là, parce
voilà,
que l'on a assez.
Voilà, exactement.
Bien, on veut peut-être se tourner vers vous, qu'on devine. Oui, je crois qu'il y a un micro doit pouvoir circuler. Monsieur a levé la main.
Juste, je ne suis pas philosophe, mais j'ai deux idées qui me viennent en vous écoutant, et en écoutant Eric en particulier, et Madame aussi. La première, c'est l'idée du réalisme. Et je me suis, en vous écoutant, je me disais qu'il y avait quand même, est-ce que la question d'un parallélisme entre l'insistance des réalismes en art, dans l'esthétique et l'art du XXe siècle, qui a été une question majeure, sans remonter au XIXe siècle et au réalisme, au naturalisme, etc., qui ouvre la voie. Donc il y a un paradoxe entre, d'un côté, une modernité qui creuse le langage jusqu'à lui donner l'injonction de se retourner sur lui-même dans toutes les formes littéraires qui ont, d'une certaine manière, connu un grand succès à l'âge moderne, et de l'autre, ce creusement des réalismes qui a d'abord été le propre de l'art, le nouveau réalisme, mais aussi, si on se réfère au livre de Badiou, qui a été, vous l'avez souligné, le maître de Quentin Meillassou, il y a quand même ce fameux livre qui s'appelle « Le siècle », dans lequel il fait une espèce de cartographie du XXe siècle, dans laquelle le réel est au centre de la question. Donc ma première question porterait sur cette relation, il y a toujours eu une relation, quelque part, un air de famille, comme disait Umberto Eco, entre les progrès des sciences, des philosophies et la question artistique. Umberto Eco le rappelait dans son livre, je crois, pas la structure absente, l'autre, le grand, sur les relations entre la géométrie non euclidienne et le coup de dé mallarméen. Qu'en est-il, selon vous, si elle existe, de cette relation entre les réalismes ou les nouveaux réalismes en art, dans la fin du XXe siècle, et les réalismes qui surgissent aujourd'hui sous la plume de ceux que vous avez cités?
Voilà. Je pense que c'est la même impasse sur la déconstruction qui est faite dans les deux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et l'exemple de Badiou, c'est assez intéressant parce que son livre « Le siècle », c'est un livre piquant, mais c'est un livre qui est d'une stupidité totale sur la poésie, puisqu'il n'en prend qu'à des thèmes. Il réduit la poésie à des thèmes. Donc,
sauf pour Pessoa, pardonne-moi.
Comment ?
Sauf pour Pessoa, au tout début de son livre, si tu te souviens bien, sur Fernando Pessoa, il a quelques lignes quand même, je trouve, qui ne se ramènent
pas.
Je
ne m'en souviens pas, c'est possible, oui. Bon. Mais en tout cas, dans l'ensemble, c'est ça. Il prend chaque fois des thèmes qui sont liés aux grands phénomènes historiques du XXe siècle et que les poètes, fatalement, ils vivent avec les mots de la journée, les mots du quotidien et les mots du temps. Donc c'est normal qu'il... Mais si on réduit la poésie à des thèmes, évidemment, on n'a rien compris à ce qu'essaye le poète, c'est-à-dire précisément de faire bouger le déterminisme de la grammaire, le déterminisme de la syntaxe, le déterminisme et à partir de là, de donner un coup de dé. Hein, même si on sait qu'il n'abolira jamais le hasard, c'est-à-dire le réel, en fait. Voilà. Non, je pense que la figuration, encore plus la figuration, mais le réalisme a souvent pris la figure de la figuration, est quelque chose qui manque terriblement de force en peinture. Je pense qu'il y a une exposition Garouste pour le moment ici. Hein. Bon, ben, je pense qu'il y a... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est du mauvais post-surréalisme mélangé à de la rêverie réaliste. Enfin, je ne sais pas comment... Reprenant les mythes, bien entendu, mais c'est tellement lourd de thématiques que ça perd toute force picturale. Quoi. Que donc, ça ne nous aide pas à voir. Qu'est-ce que demande la peinture ? Qu'est-ce que nous demandons à la peinture, plutôt ? Nous demandons qu'elle nous aide à voir ce que nous ne voyons pas. Je ne vois pas ce que quelqu'un comme le réalisme et la figuration ne nous font pas voir ce que nous ne voyons pas.
Pardon, juste de préciser une chose, Eric, il y a deux façons de penser les choses, mais le réalisme, dans le sens où j'entendais, c'est au contraire le surgissement de l'objet réel du cubisme ou du pré-cubisme, enfin pas du pré-cubisme, du cubisme, jusqu'au nouveau réalisme, au sens des Niçois, de Marcel Reiss, de tous ces gens-là, tu vois, ces gens-là que je voulais désigner, qui sont au sommet d'une recherche dans le langage de la modernité et qui en même temps sont au cœur d'une objectivation, d'une prise en compte de la réalité objective. Le parti pris des choses, d'une certaine manière, participe aussi de ça dans le registre poétique, quoi, tu vois, avec Ponge, quoi. Enfin, le réalisme au sens de ce surgissement d'une sorte de réel, même pas transfiguré parfois, dans l'espace pictural ou installationniste, etc. Tu vois, c'était un peu...
Non, mais on ne peut pas parler en général, alors, à ce moment-là. Il faut voir chaque œuvre en particulier. Et à commencer par celle de Ponge, le parti pris des choses ne va jamais sans le compte-rendu des mots. Hein, bon. C'est le mot de Ponge aussi. Non, là, je pense que effectivement, si tu veux prendre une œuvre précise, moi, je prenais le mauvais côté d'une invocation du réalisme dans le retour de la figuration qui a eu lieu déjà dans les années 80, mais dont Garouste est l'exemple récent. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions ?
Oui, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, j'en profite pour poser la mienne que j'hésitais à poser parce que ça va peut-être nous ramener tout au début de vos interventions, en particulier celle de M. Clément. Vous avez dit, en parlant du réel, que le réel ne pouvait pas être le chaos. Parce que alors là, il n'aurait plus de sens. Ou il n'y aurait pas de sens. Mais je me demande, faut-il qu'il y ait un sens, au-delà du sens que nous puissions donner à nos vies ou à la vie politique, aux projets qu'on puisse construire ? Pourquoi faut-il nécessairement qu'il y ait un sens dans le réel ? Voilà, merci.
Oui, oui, non, mais vous avez raison, mais ça fait partie, je l'ai dit en terminant, je n'échappe pas aux incertitudes de la présentation, hein, en parlant. Donc, d'abord, il y a beaucoup de choses à compléter à votre remarque, qui est tout à fait justifiée. D'abord, c'est que le mot sens a plusieurs sens. Il y a plusieurs sens du sens, donc voilà. C'est Nancy qui disait ça. C'est même à l'infini, je veux dire. Il y a pas seulement les cinq sens, mais il y a pas seulement la signification, mais il y a le sens de la perspective, le sens du mouvement. Enfin, c'est presque à l'infini. Donc, c'est très clair. Maintenant, quand je dis que le réel n'est pas un chaos, c'est pour nous. Nous ne pouvons pas vivre dans le chaos. Nous devons bien donner forme. C'est pour ça que je préfère le mot forme au mot sens, évidemment. Mais il y a aussi une autre idée de Nancy qui est intéressante, quand il dit le monde n'a pas de sens, évidemment, mais il est le sens. C'est l'existence. Donc, quand je suis dans le réel et que... humain, je dois tracer un monde dans ce réel, ben, il est clair que je dois donner forme à cette existence, voilà, donner forme à ce sens. Et le sens du monde, c'est l'existence, il existe, Voilà, le sens du réel, il existe. Et je dois donner forme à cette existence pour en faire un monde. C'est comme ça le schéma, qui est le schéma non seulement philosophique, mais de tout humain. C'est en quoi je pense qu'il faut à la fois reprendre la philosophie à ce niveau-là, et à la fois y voir que c'est le chemin que chaque être parlant fait, chaque devenir parlant fait. Bon, donc vous voyez, excusez-moi si j'ai eu l'air de jongler, mais je pense que voilà, le sens, il n'a pas d'autre sens que l'existence du réel, mais en même temps, cette exigence de sens, c'est l'exigence de donner forme à ce réel, même évidemment fragmentaire, évidemment incertain, évidemment indéterminé, évidemment libre dans l'équivoque de la liberté, qui est aussi bien la destruction que la construction. On disait le bien et le mal avant. Voilà. Et d'ailleurs, avec beaucoup plus de complications entre destruction et construction, on sait bien que les deux sont imbriqués.
Moi, je vous aurais dit, le réel, c'est qu'il y a ce qu'il y a. C'est une formule de Nancy. Ah, ouais. C'est qu'il y a ce qu'il y a.
Ben, il y a Wittgenstein qui dit ça aussi. Là.
Pas tout à fait, oui.
Il ne dit pas le réel, mais...
Non, le monde est tout ce qui est le cas.
Voilà,
c'est
tout
le cas.
Ce qui est le cas, hein, c'est ça, tout ce qui est le cas.
Il n'a pas de sens par lui-même. C'est nos existences qui ont le sens. Et c'est quand on deal avec le réel qu'elles peuvent avoir un sens.
Et Granel distingue les formes des existentiaux et les formes de la perception. Et donc c'est ça, donner forme au monde. C'est donner des formes existentielles, le sens de la finitude, le sens de l'amour, etc. Et les formes de la perception, la hauteur, la largeur, la voluminosité, etc., etc. La couleur, voilà. Donc c'est ça, c'est donner forme au monde. On retrouve là le langage de la peinture, de l'art.
Bien, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va en rester là. Merci Elisabeth, égale merci Jean-Clémence pour cet échange. Et je rappelle le titre d'Éric Clémence qui paraît là, ces jours-ci, en étoile, introduction à la philosophie. Alors c'est le tome 1, Le Devenir, qui paraît aux presses universitaires de Louvain. Et donc signature à la librairie du centre, tout de suite après cette conversation.
Merci pour cette précision, Sylvain. Donc oui, vous êtes attendu à la librairie du Centre Pompidou pour une dédicace du dernier ouvrage d'Éric Clémence et des autres, si vous le souhaitez. Je voulais vous remercier pour votre attention. Vous signaler que cette rencontre et les deux autres rencontres du cycle Belgian Théorie autour d'Éric Clémence sont disponibles en ligne, notamment sur le site Balise, le replay de Balise, le web magazine de la BPI. Remercier particulièrement pour cette séance Pierre van der Stappen, qui est le programmateur du Centre Wallonie-Bruxelles. Et d'autre part, vous donner rendez-vous pour une autre séance du cycle Belgian Théorie que nous programmons avec le Centre Wallonie-Bruxelles le 23 janvier. Ce sera à la BPI avec comme philosophe invité Isabelle Stengers. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée.